Bienvenue à la French Connection, épisode 151. Cette semaine, je suis avec Damien.
Hello! T'as vu, 151, ça fait un palindrome, on peut le lire dans les deux sens, comme Zabtaz.
Quel hasard. Je me laisse plug, comme d'habitude, COVID, respecter les règles de distanciation sociale pour ceux qui ne sont plus confinés. Ceux qui sont confinés, respecter ces mêmes règles-là, justement, pour limiter la propagation. Soyez civils dans vos actions. Il y a toujours l'activité weekly du Hackfest pour justement les gens qui sont en état de solitude qui peuvent parler. Et c'est à peu près ça ce qu'il y a à faire. Donc, commençons immédiatement avec les nouvelles. Les Américains ont mis en évidence qu'il y a quelque chose que la Corée du Nord utilise dorénavant pour infecter.
Oui, alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis quelques semaines, les États-Unis d'Amérique, la Maison Blanche, ont accentué un petit peu plus leur communication dédiée à la Corée du Nord. Alors, je ne vous parle pas des autres communications contre la Russie, contre la Chine. Là, contre la Corée du Nord, on est en ambiance piratage informatique. Et souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, on avait expliqué lors du podcast que le FBI proposait jusqu'à 5 millions de dollars toute information qui permettrait de remonter à des attaques informatiques liées en tout cas à la Corée du Nord. Autant dire que ça risque d'être très compliqué, même si c'est pas impossible, mais c'est pas parce que il y a des informations qui pointent une machine en Corée du Nord que c'est effectivement des Coréens, en tout cas de la Corée du Nord, qui agissent. Petit rappel, j'ai retrouvé dans des informations que j'avais découvertes il y a 2-3 ans et que j'avais relayées, qu'il y avait des Coréens du Nord, mais d'autres qui, à partir de la Thaïlande ou de la Chine, comme de Hong Kong, avaient des fermes pour les joueurs de jeux vidéo où ils fabriquaient des personnages, ils revendaient, etc. Donc, je pense, si je peux me permettre, qu'il y a plus de chances qu'effectivement il y ait des pirates de la Corée du Nord qui agissent des États-Unis, de la Belgique, du Canada, de la France, de où vous voulez, pour le compte de leur grand patron, mais directement de la Corée du Nord, ça paraît un peu compliqué. Surtout que qu'est-ce qu'on en sait ? Voilà, on a tellement d'informations qui viennent de la Corée du Nord, alors que, pour rappel, c'est quand même, il paraît, un pays qui est supra-surveillé. En juste l'exemple de leur petit joufflu qui était censé être mort et qui n'est pas mort et qui est mort et qui est peut-être pas mort. On n'en sait rien. Mais toujours est-il que je reviens sur des choses beaucoup plus sérieuses, parce qu'on peut considérer quand même que la CISA, c'est la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, le FBI et aussi le DOGE, non, le DOD, le département de la défense, le DOGE, c'est le département de la justice. Les trois-là ont publié, cette semaine, une nouvelle alerte sur le groupe Eden Cobra. Alors, Eden Cobra est l'un de ces groupes, parmi 4-5 de pirates de la Corée du Nord, qui agissent contre tout le monde et à première vue contre les États-Unis, etc. Juste un petit détail, mais si ces pirates sont de la Corée du Nord, ils agissent tous donc sous le même étendard, comment se fait-il qu'ils aient tous des noms différents ? Pourquoi n'agissent-ils pas sous le même drapeau ? Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que les autorités américaines ont expliqué qu'il y avait 3 codes, alors qu'ils sont, je vais être clair avec vous, c'est du rat, c'est du trojan, du cheval de Troie, petit clin d'œil à Back Orifice, pour ceux qui se souviennent, il y a 25 ans, du Cult of the Crow, qui était américain, purement américain, ce cheval de Troie. Bon, ben là, voilà, on est avec Back Orifice 30 ans plus tard. Et donc, les logiciels, alors je vais tenter de vous les dire et de vous les lire, parce que je les ai notés devant moi, sinon je vais être incapable de le faire proprement. Alors, il y a Cooper Edge, il y a Tinted Scribble et Bubble Dash. Bref, des noms de jeux vidéo, soyons très clairs. 3 outils qui sont donc des chevaux de Troie, qui donc seraient les armes numériques utilisées par des pirates de la Corée du Nord. Alors, ce qui est très intéressant par les études qui ont été diffusées, d'ailleurs, on vous mettra les liens sur sécurité.fm, l'étude montre que c'est des attaques de 2016 à 2019. Donc, du coup, ça permet de montrer et de voir aussi très clairement comment ces pirates, on ne sait pas trop, en tout cas, qu'on nous indique comme Corée du Nord, ont pu agir et continuent très certainement à agir. Donc, c'est quand même très intéressant à suivre parce que, pour les plus anciens, ça fait très longtemps qu'on parle de guerre numérique par des petites entités, du script qui dit à l'étatique. Aujourd'hui, c'est beaucoup mis, en français. En québécois plutôt, c'est mis plus facilement en exergue parce que aujourd'hui c'est aussi un énorme outil de communication pour les politiques. Donc on ne sait pas qui fait quoi, on sait qu'il se passe des choses. Le problème, c'est qu'au milieu, la chair à canon, c'est nous.
Entre autres, effectivement, de toute façon, l'attribution est une des choses les plus problématiques qu'il y a sur Internet, puisque c'est, ça peut passer pour d'autres groupes qui opèrent sous d'autres bannières ou fait passer d'autres bannières. Donc ça, c'est juste l'enfer. J'ai mis ton clin d'œil sur Back Orifice et Inet Boss aussi, qui sont des deux vieux gizmos qui avaient été développés. Puis initialement, c'est pour faire du prank, là, faire des blagues à ton ami, puis ouvrir le tiroir du lecteur CD. Je me rappelle bien de cette époque tout à fait comique et farfelue. Donc, c'est intéressant de voir ce genre de choses-là. L'analyse du code va te prendre très intéressante aussi, puis ça va être quelque chose qui va à suivre énormément dans les prochains temps, d'ailleurs. Puis enchaînons, dans le fond, restons dans le même coin du monde. Là, les pirates chinois s'attaqueraient à des centres de recherche sur la COVID-19, ce qui est un peu troublant en soi. Là.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'information est d'abord partie des États-Unis. Il faut savoir qu'ici, à Québec, le Centre de la cybersécurité a aussi lancé une alerte sur le sujet, où il commence à y avoir des preuves, ou en tout cas des craintes, de possibilités d'attaques informatiques venues de Chine. Mais la Chine, c'est tellement grand. Hein. Et puis la Chine, ça peut être en face de chez vous, ça peut avoir... voilà, bref. En tout cas, ils ont alerté en expliquant que, eh bien, c'est les secteurs de la santé, pharmaceutique et de la recherche, surtout semble-t-il des secteurs dédiés à la santé et le Covid-19, seraient attaqués donc par des entités à première vue, comme disent les Américains, chinoises. Alors, je vais être très honnête avec vous. Les pirates que je peux suivre, alors je vais simplement prendre l'exemple de ceux qui sont des opérateurs de ransomware. Alors certes, on ne sait pas s'ils sont chinois. Hein, ils peuvent être belges, québécois, ils peuvent être à Laval, ils peuvent où vous voulez. En tout cas, ils attaquent tout ce qui bouge. Pour le moment, eux, on ne sait pas si c'est pour voler les données pour pouvoir faire le vaccin en premier. Ce qui est certain, c'est pour demander des rançons. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Alors maintenant, dire qu'un pirate attaque tel laboratoire de pharmacie parce qu'il est intéressé aux recherches dédiées au virus... D'autant plus qu'il est chinois. Pour rappel, si les pirates chinois sont intéressés au virus, bien il suffit qu'ils aillent à Wuhan, hein, au P4, laboratoire de santé. À première vue, il doit y avoir suffisamment d'éléments de recherche en cours. Donc voilà, c'est très très compliqué. On en parlait là il y a 45 secondes, mais pas plus. Tout ça se mélange, cet aspect politique se mélange, ce bloubi-boulga pour les Français, hein, alors pour ceux qui ne se connaissent pas, c'était Casimir, un gros bonhomme orange, et là il n'y a strictement aucun clin d'œil avec le président des États-Unis d'Amérique. Hein. Mais c'est un mélange d'informations qui va un petit peu dans tous les sens. Alors certes, il y a des attaques, certes, il y a des attaques informatiques, il n'y en a pas plus qu'avant le Covid-19, sauf qu'aujourd'hui, les pirates ont tous la même ligne directrice. Covid-19, bah oui, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, tout le monde en vit, voilà. Écoutez, vous savez, quand tout ça va redevenir à la normale, eh bien, ils reviendront sur leurs meilleurs joueurs de foot, ils reviendront en vous faisant croire que Paulette, qui est toute nue sur Facebook, veut devenir votre amie. Voilà, pour le moment, ils ont un angle. N'oubliez pas, on n'arrête pas de le dire, le pirate aujourd'hui est devenu quelqu'un de très marketing. C'est comme le marketing politique qui vous montre un pays du doigt en disant « Oh là là, leurs pirates attaquent !» Ouais, enfin nous, ce qu'on en voit, c'est qu'il y a des pirates, et ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas notre but, malheureusement, c'est la réalité, il y en a partout. Maintenant, c'est aussi à nous de nous protéger, à nous politiques de nous protéger, et puis d'arrêter de les voir trembler dans un coin en écoutant je ne sais pas qui d'ailleurs.
Ouais, mais comme tu dis, il y en a pas plus, il y en a pas moins. Ils sont juste adaptés. Ils ont juste adapté leur structure et leur modus operandi pour faire affaire avec le COVID-19. C'est coco. Quand il y a une célébrité qui est en vogue, c'est celle qui prend le nom. C'est exactement la même chose. Donc, la célébrité, cette fois-ci, c'est un virus à ce moment-ci. Puis ça, même, ça sert à faire encore plus peur aux gens. C'est plus facile.
Mais par contre, il faut pas édulcorer le fait, hein. Effectivement, il y a, Je n'ai jamais vu autant d'attaques phishing, le filoutage d'hameçonnage, reprenant Office 365, donc qu'on appelle maintenant Microsoft 365. Ça a changé de nom, hein, pour rappel. Donc ça embête beaucoup de professionnels du phishing qui doivent refaire intégralement tous leurs templates. Oh les louloutes, tant mieux pour eux. Mais voilà, effectivement, là par contre, j'en ai vu beaucoup. Mais pourquoi? Parce que les pirates, en tout cas ceux qui se sont spécialisés dans la chose, ont compris aussi que le télétravail va rentrer définitivement dans les mœurs de toute la planète. Pas que de la partie Amérique du Nord, pas que de la partie asiatique qui était déjà ancrée dans, voilà, hein, quand vous voyez que le grand patron de Twitter a dit à ses employés, écoutez, vous pourrez maintenant définitivement travailler à la maison. Les pirates, ils sont au courant de ça. Je connais, moi, des pirates qui font des revues de presse juste pour faire un catalogue de toi, la cible que je vais attaquer pour du scam à l'amour. Hein, vous savez, les mecs qui vous disent « je suis amoureux de toi, envoie-moi de l'argent » ou cette femme qui vous dit « je suis la fille du président de je ne sais trop quel pays, j'ai 45 millions d'euros de dollars à te fournir, refile-moi ton RIB, tes données bancaires ». Voilà, ils ont des catalogues pour ça. Alors, vous doutez bien qu'ils ont aussi des catalogues d'actualité pour telle ou telle entreprise. On l'a vu encore la semaine dernière, on en parlait avec les ransomware. Faut pas être dupe, hein. Les mecs qui infiltrent votre ordinateur, ils analysent les documents, ils attaquent vos clients, ils écrivent vos clients usurpant votre information et votre identité. Puis aussi, ils regardent un petit peu le secteur dans lequel vous travaillez. Puis après, bah, vaut la galère.
Ouais, mais c'est ça, c'est des professionnels du domaine. C'est plus l'adolescent dans son sol en manque de sensations fortes qui veut juste faire un graffiti virtuel en défaçant un site web. On est vraiment dans un modèle où tous les moyens sont possibles pour faire de l'argent et donc plus ils vont spécialiser, comme tu mentionnes, puis on va y tomber. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut justement, ce serait temps. On agisse conséquemment, puis de toute façon, je vais dévoiler un punch. On va terminer l'épisode avec des informations assez fraîches qui risquent d'être très, très intéressantes à discuter rendu à ce stade-là. Et donc, on continue dans des affaires où l'argent est encore le cœur. Donc, les distributeurs de billets qui ont été, les pirates ont été appréhendés.
Ouais, alors c'est rigolo. Bravo le teasing, hein, pour rester entre nous. On va en parler après. Oui. Alors là, pour la petite information, vous vous souvenez, on avait parlé il y a quelques mois, je sais plus si c'était toi ou Patrick, enfin, toujours écrit qu'on avait parlé de ces infiltrations de distributeurs de billets ici dans la région de Montréal avec des gars qui avaient trouvé le moyen d'accéder, aux distributeurs de billets, mais surtout à l'ordinateur qui est derrière. Alors, à l'époque, on en avait rigolé parce que c'était normalement quelque chose de plus en plus rare, de plus en plus discret, on va dire, hein. Le jack-clicking, c'est tout simplement réussir à percer un trou dans l'espace qui contient le distributeur de billets, un trou qui permettra de rentrer une petite pince avec une clé USB qui va atteindre l'ordinateur qui permet de gérer tout ça. Eh bien, croyez-moi, c'est complètement fou de se dire que ça continue encore, et là on peut dire cocorico pour les autorités françaises, la police, les autorités judiciaires, parce qu'ils ont arrêté deux hommes âgés de 26 et 31 ans, je me souviens plus de l'âge, mais voilà, on s'en fout après tout de l'âge, hein, dans la trentaine. Eh bien, ils ont été arrêtés parce que, ils étaient russophones. Pardon, hein, messieurs, les amis et copines russes, mais voilà, il y en a aussi chez vous, hein. Ils viennent chez nous, donc c'est ça qui est drôle. Ils sont pas fous, mais ils ont pas envie de finir au goulag chez vous. Mais toujours est-il qu'ils ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, c'est simple, hein. Ils ciblaient des DAB, des distributeurs automatiques de billets, la nuit. Tant qu'à faire, on va pas faire ça le jour. Et puis, ils creusaient par n'importe quel moyen. Et puis, bah, ils plaçaient leur clé USB, hein, tout simplement dans le distributeur, donc dans l'ordinateur. Et ben, bah, à partir de cet élément-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ce ne sont que des mules, ces gens-là. Ce sont peut-être ce pauvre, sans être péjoratif, mais peut-être un gars qui était au chômage en Russie, mais j'en ai connu, moi, d'autres pays. Hein. J'ai même connu, moi, des maçons qui étaient partis au Sri Lanka, à l'île Maurice, exactement. À l'île Maurice, ils avaient reçu 3000 dollars en liquide, plus des clones de cartes bancaires, et leur mission était de prendre du bon temps à l'île Maurice et de faire tous les distributeurs de billets avec les clones. Ils récupéraient le liquide, et puis ils les envoyaient à leur mule. Sauf qu'ils ont été arrêtés, ces pauvres gars, et ces pauvres gars sont en prison. Pendant que le grand patron, lui, je crois qu'il doit bien se couler la vie douce en Colombie, au Mexique, au Québec, en France, en Belgique, j'en sais rien en fait. Hein. Et donc, pour revenir sur mes deux russophones, ce sont des mules. Leur mission est de placer ces clés USB dans les machines. Une fois que la clé USB est placée, eh bien, il y a leur commanditaire, quelque part dans le monde, qui commande, qui programme, qui, en tout cas, fait de manière à ce que le distributeur de billets crache les billets. Alors, pour la petite info, et moi, pour l'avoir vu de mes yeux vus, il faut savoir que ces pauvres mules, par exemple, il n'est pas question pour elles de prendre trop d'argent. Parce que la clé USB est programmée et la commande extérieure est programmée pour que 3000 euros, par exemple, ou 3000 dollars sortent, pas plus. Vous doutez bien que la personne va pas prendre plus que sa commission, la commission liquide. Parce que vous doutez bien que je pense que le mec courira beaucoup moins bien dans le béton avec les moignons coupés, par exemple. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Parce qu'on est clairement dans une ambiance mafieuse, on est clairement avec des gens qui sont dans la souffrance, hein, ces gens-là qui sont aussi utilisés par le piratage informatique. Alors attention, hein, on va enlever tout de suite la corne que j'ai sur le front comme licorne, le côté bisounours ou Teletubbies, hein. Il y a aussi des gens qui sont clairement pas des sympathiques, hein, qui sont aussi clairement eux-mêmes les mafieux du groupe mafieux. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que, ben, en France, ils en ont arrêté deux, Donc, bah, cocorico, comme on dirait chez les jeunes, GG, guys!
Okay. En même temps, comme tu le dis, ça ne fait que couper les bras opérationnels, mais ça ne coupe pas l'ensemble de l'organisation.
Oui, et puis surtout que eux, ils n'auraient, alors j'exagère hein, quand je dis ce chiffre-là, ils n'auraient volé que 280 000 euros. Donc, grosso modo, en argent québécois, comptez 310, 320 000 dollars, hein, ce qui est quand même pas négligeable, plus tous ceux qu'on ne connaît pas, plus tous ceux qui sont faits en cachette, plus tous ceux dont les banques, pour le moment, cachent sous le tapis parce que les assurances remboursent. Voilà, hein, c'est comme ces banques maintenant qui remboursent de moins en moins leurs clients qui sont fait piéger par du phishing, l'hameçonnage, parce que ben, le client a toutes les informations pour se protéger et que maintenant certaines banques disent « Ah non, non, nous on vous rembourse plus, il y a la 2FA, le mec qui vaut déjà en volant 3000, la double authentification, le mot de passe, etc. » Donc si vous ne prenez pas attention à ça, si vous avez quand même eu un hameçonnage et on vous a volé de l'argent, c'est votre problème, on ne rembourse pas. Et pour information, en Europe par exemple, en France, certaines banques, même si elles vont au tribunal, le tribunal fait 50-50. Donc voilà. Je pense aussi que les clients, les utilisateurs doivent aussi faire attention à leur hygiène numérique et pas tout le temps penser que la police, les autorités ou l'entreprise doit aussi être là pour vous faire votre hygiène et vous gratter les fesses ou le dos.
Les fesses.
Maintenant que j'y pense, ça m'intéresse là.
Hein? Non, effectivement, on est toujours dans le cas où va falloir que la responsabilité soit prise par le citoyen aussi. Encore là, on a un défi assez immense de sensibilisation à tous ces citoyens. Puis c'est même dans ces catalogues-là que tu mentionnais, ils ont même des catalogues qui disent que les personnes qui se sont faites piéger. Donc, sont déjà les personnes qui sont plus fragiles sont déjà répertoriées en plus dans ces catalogues-là. Donc, ils vont refrapper dessus le plus possible pour extraire encore plus d'argent de ces individus-là.
Regarde, on en a parlé. Pardon. On en a parlé il y a 15 jours, mais regarde Maisie qui a attaqué deux fois de suite la même banque. D'abord au mois d'août. Ils infiltrent, ils volent quelques informations, ils s'en vont. Alors, je les crois pas 5 minutes quand ils disent « on est parti comme ça » parce que ça faisait très peur et très dangereux. Oui, et puis moi aussi, je crois au Père Noël. Et puis qu'ils reviennent 9 mois plus tard où là, ils volent 11 millions de données bancaires, ils chiffrent, etc. Dites-vous qu'un pirate, malheureusement, aujourd'hui, est une personne, un groupe de personnes qui réfléchissent, qui répertorient. Si en cybersécurité, moi, à mon tout petit niveau, je ne suis pas un technicien, je suis un spécialiste de l'OSINT et de la cyberintelligence, mais si vous prenez des exemples comme Nicolas, comme Patrick, comme tous les copains, Vincent et compagnie, ce sont des vrais techniciens, mais vous doutez bien qu'eux aussi réfléchissent en pirate, en ethical hacking. Pour ceux qui connaissent un peu, mais il y a plein d'écoles, je prends l'exemple de la CDSI, l'école, la licence ethical hacking dans le nord de la France, qui est l'une des plus vieilles écoles, si ce n'est la plus vieille, à avoir mis sur le devant de la scène l'ethical hacking, faire réfléchir à des informaticiens, réfléchir comme un pirate pour pouvoir contrer les pirates. Si on fait de l'ethical hacking, c'est que vous doutez bien que le hacker, le pirate informatique, le black hat, il y a longtemps qu'il réfléchit aussi comme le marketeur, comme l'éthical pour le contrer aussi. Donc arrêtons de chier sur les autres, arrêtons de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Que je sois moi le simple utilisateur lambda ou l'entreprise ou l'étatique, même si je trouve que les ministères prennent de plus en plus de... Mais ils n'ont pas le choix, dans tous les cas. Oui, ça s'est pris de plus en plus au sérieux, mais il faut les finances, les hommes, l'envie. Et puis justement cette envie politique de se dire... On va s'enlever la merde des yeux parce qu'effectivement, c'est la merde. Soyons très clairs.
Ah, c'est juste fou. Mais de toute façon, ces gens-là ont migré avec des technologies. Tu sais, quand j'ai commencé en sécurité, on était très axé sur des choses technologiques. Puis maintenant, c'est de l'humain qui piratise. C'est du phishing, c'est des scams, c'est tout pour tromper l'humain.
Pardon d'utiliser beaucoup de gros mots français, alors pour pouvoir bien faire l'équilibre, tabernacle cul de calice. Voilà, ça c'était mon côté québécois. Mais juste pour le social engineering, souvenez-vous, pour les plus anciens, mais aussi pour les plus jeunes, hein, en tout cas pour tout le monde, 7 à 77 ans, allez rejeter votre œil sur un ancien pirate informatique qui signait le Condor. C'est simple, hein, le Condor, c'est qui ? C'est un ancien pirate américain, je vous donne pas son nom, parce que du coup ça vous permettra de chercher, qui dans les années 80 avait piraté, le FBI avait piraté énormément de sociétés, tout simplement par la tchatch, tout simplement par le téléphone. Kevin Mitnick, allez je vous le lâche, comme ça vous permettra de chercher. Kevin Mitnick a fait sa renommée dans les années 80 sous cette forme-là. Alors, pour la petite info, pour le petit troll, je l'ai rencontré il y a 7-8 mois à Lille, en France, à l'époque où je vivais encore en France. Il avait été invité par une super société, je ne la cite pas, mais voilà, c'est une super société qui l'avait invité en France. Et j'avais fait du social engineering avec lui, où j'avais pu atteindre sa valise qui était rangée dans un endroit, et je m'étais pris en photo, juste pour dire que le social engineering, c'est lui qui nous l'a fait rentrer dans nos mœurs. Moi, je lui dois beaucoup par rapport à ce qu'il a pu nous apprendre. Il a un excellent bouquin d'ailleurs sur le sujet, même s'il a un peu vieilli. Rien ne vieillit, hein. Prenons l'exemple du livre L'Art de la Guerre, hein, de Lao Tzu, hein. Ça a 2000 ans, ce truc-là. Ben, continuez aussi à le lire, celui-là. Votre bibliothèque peut faire 3000 ans. Il y a plein d'infos intéressantes. Et donc, voilà, c'est pour dire que le petit troll d'atteindre sa valise, un malveillant aurait pu mettre plein de choses mauvaises dedans, dans sa valise. De la drogue, un peu de poudre, tout ce qu'on veut. Ben, le social engineering, c'est ça aussi. Donc, voilà.
Ça en fait partie. Puis c'est ça, c'est, on met moins de. Combiner ça avec les mesures technologiques ne sont plus à elles seules en mesure de faire ça, parce que généralement, les gens vont déverrouiller les mesures technologiques qui ont été mises en place, justement. Donc, on se retrouve dans une drôle de zone.
Et c'est pas toi qu'on dira le contraire, hein, vu que toi, t'es un grand technicien. Je pense que tu dois voir des choses, mais tu ne veux pas en parler, soi-disant qu'il y a secret professionnel. What the fuck?
Une chose que je peux discuter un peu plus ouvertement, ben, on avait un cas d'un utilisateur qui a cliqué 8 fois sur le même fichier, la même chose d'infection. Donc, cette personne-là, 8 fois, on a dû remonter son poste de zéro parce que elle l'a pas appris 8 fois. Puis elle l'a pas oublié, là. C'est dans la même semaine. Même fois, c'est même dans la même à 2 jours d'écart.
Oui, il a écouté la presse, il a écouté les médias qui disent il faut qu'on se mélange tous, comme ça, ça nous soignera des virus comme le Covid-19. Donc lui, en informatique, il s'est dit, si je clique 2 fois, eh bien, ça contredira la première fois.
Bon, on peut voir ça, mais c'est toujours ton cas de Mme Michu, là, de celle, la personne qui est mal, puis ensuite qui déverrouille les portes parce qu'elle veut être aidante, elle veut être gentille,
ouais.
Peu importe la raison qui est sous-jacente à ça, donc on est un peu là-dedans.
Mais on n'arrête pas de le dire. N'ayez pas honte de dire que vous avez fait une bêtise en informatique. On fait tous des bêtises en informatique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, une bêtise informatique peut aller très très loin. Donc, vous avez fait quelque chose qui vous met dans le doute ou vraiment un compte à rebours dans l'écran, alertez tout de suite. Arrêtez de se voiler la face parce que malheureusement, la chaîne, vous savez, l'effet papillon, même nous, je me permets de parler aussi pour toi Nicolas, mais même nous, on est étonnés de voir l'effet papillon, même au bout d'une heure, même au bout d'une semaine. Ça devient complètement dingue, quoi.
Sont rendus d'énormes spécialistes de ce domaine-là. Donc, et justement, basculons à la nouvelle suivante qui est au niveau des mairies qui se font attaquer, puis maintenant même les citoyens qui sont touchés ou les administrés sont aussi affectés par ce genre de choses-là.
Oui, tout à fait. Je voulais en reparler. Bon, on en avait parlé la semaine dernière ou il y a 10 jours. Je me souviens plus trop de cette mairie en Californie qui s'était fait rançonner et j'avais découvert que les pirates commençaient à diffuser des informations dans le Darknet et des informations d'autant plus dramatiques, c'est que c'était tous les documents de la police municipale, enfin, en tout cas de la police locale, avec les noms, les photos, la personne arrêtée, combien elle avait payé de caution, ce qu'elle avait fait, son travail, son permis, enfin tout. Et comme moi je m'occupe un peu de l'actualité européenne pour le podcast, il y a plusieurs mairies qui se sont fait impacter, qui ont bien voulu en parler. Surtout, c'est surtout là le problème, c'est là où je veux en venir, c'est qu'elles ont bien voulu en parler parce que ça commence à impacter aussi les particuliers. Eh ben oui, ça commence à impacter les administrés. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, ou pas, c'est que le ransomware avant dans les mairies, ça a impacté déjà l'administré. Mais sauf que ça mettait... j'étais en train de faire la serrure. Vous savez comment on fait aux enfants sur la bouche? Je ne dis rien. Pourquoi? Parce que le DGS, le directeur général des services, mettait l'information sous le tapis, parce que les directeurs de services mettaient l'information sous le tapis, parce que le petit chef mettait l'information sous le tapis et que les employés, ils avaient tellement de chefs au-dessus de leurs épaules et le droit de réserve. Donc, ça veut dire ne pas communiquer d'informations correspondant au travail de fonctionnaires et ça, on peut tout à fait le comprendre. Voilà, c'était ni vu ni connu, bouche cousue. Hein, voilà, les 3 petits singes. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Sauf que aujourd'hui, cette politique du mensonge, qui pour moi est une politique du mensonge, fait que c'est en train de se retourner contre tout le monde. Là, je vous prenais l'exemple, par exemple, en France, bon, là, par exemple, la ville de Toulouse a décidé de déposer plainte ransomware au mois de mars. La ville de Marseille s'est fait impacter, etc., etc. Sauf que on a un véritable problème, c'est que ils sont incapables de dire quelles sont les données, 1, qui ont été chiffrées. 2, qui ont été volées, si elles ont été volées, et aujourd'hui on a malheureusement trop de preuves qui prouvent qu'il y a eu vol avant, bah oui, il suffit juste de réfléchir. Si le pirate est rentré chez vous, il ne s'est pas contenté que de repeindre vos murs. Prenez l'exemple d'un cambrioleur qui rentre dans votre appartement, dans votre maison, dans votre voiture. Le mec, il va pas s'asseoir dans votre voiture et se dire, bah tiens, je vais boucher la serrure, comme ça tu peux plus rouler. Et si tu veux rouler, tu me payes et je te défais la serrure. Non, il aura pris la musique qui est dans le poste autoradio, il aura peut-être photocopié les papiers d'assurance que vous avez laissés dans votre boîte à gants. Et si vous aviez votre portefeuille et votre pièce d'identité, eh bien, il va faire une photocopie. Et puis voilà. Non, il va pas les laisser là. Il va tout prendre, il va les copier, puis il va vous dire, bah maintenant, vous allez aussi payer les informations que je viens de vous voler. Oui, mais le problème, c'est que dans les mairies, asseyez-vous 30 secondes. Et puis vous vous dites, quelles sont les informations que j'ai fournies depuis le mois de septembre à ma commune? On va réfléchir ensemble. Les impôts, la cantine pour les enfants, peut-être les associations sportives, peut-être la garderie municipale, mettez bout à bout. Ça commence à piquer sévèrement, sans compter que maintenant les communes s'intéressent aussi à la vidéoconférence, à la visioconférence. Ça, c'est un petit clin d'œil à notre copain qui dit « on ne dit pas vidéoconférence ». Ok. Voilà, il y a ça. Les polices aussi, regardez ce qui s'est passé en Californie, mais regardez maintenant. Toutes les communes ont quasiment leur police municipale. Voilà. Tant que vous ne continuerez pas à vous dire que ça peut aussi vous arriver, donc on se forme avant, on audite avant, on fait appel à des professionnels avant, tant que vous continuerez à vous dire « c'est moi le directeur général des services, c'est moi qui sais », parce qu'à côté de lui, il y a son copain, son meilleur ami qui est le maire, qui lui dit ah « non, on n'en parle pas, c'est bientôt les élections », etc., etc. Eh bien, écoutez, vous prenez votre barque et vous faites comme moi, vous essayez de traverser l'Atlantique à la rame.
T'en as pour longtemps à traverser, mais oui, les mairies, ça n'est un cas. De façon, au Québec, les conseils de ville sont souvent sous-représentés en termes de protection, parce qu'un, ils n'ont souvent pas des moyens qui vont avec ce genre de choses-là. On se retrouve au même problème que les PME, PMI. Qui sont généralement mal outillés à ce sens-là. Mais en même temps, en France, je sais que l'ANSSI fait quand même beaucoup d'efforts pour outiller les PME, PMI. Fait que je suis peut-être un peu déçu que les mairies ne suivent pas la cadence.
Ben, le problème des mairies, pour y avoir travaillé 10 ans dans une mairie, il y a d'abord les appels d'offres à faire. Et après, il faut les budgets. Les maires font un maximum pour travailler, mais ils n'ont pas les budgets extensibles et à l'infini. Quand tu te rends compte que certains maires découvrent que quand ils prennent un espace nuagique pour stocker des données, que cet espace nuagique en taille va doubler tous les ans, donc le montant va aussi risque de prendre une petite ampleur, ils commencent à saigner du nez, hein, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de choses, ces gens-là. Hein. Et puis après, tu as aussi, mais tu as beaucoup d'employés qui ne font pas d'efforts. Je prends l'exemple, regarde dans une mairie où on a le service économique. Justement, tu parlais des PME, PMI. Ces services économiques font beaucoup de salons, font beaucoup de rendez-vous, font beaucoup de manges-toast, etc. Et donc, ils mettent aussi en relation des PME, PMI, des investisseurs, etc. Le nombre de données sensibles qu'ils ont, rien que déjà le mail. Mais regardez, rien que déjà accéder à la machine de quelqu'un du service économique d'une mairie, je n'ai plus qu'à, moi, le pirate, me faire passer pour cette mairie et à contacter toutes les entreprises avec qui je suis en partenariat. Et là, c'est Noël. Pas Noël avec le vrai Père Noël. Hein. Non, moi, mon Père Noël à moi, il ressemble plus à Dark Vador fusionné qu'à Vampire, hein, parce que vous croyez moi, il va vous pomper. Hein.
Assez massivement, oui. Puis c'est assez grave tout ça. Et justement, puis là, on va conclure avec l'histoire la plus croustillante, justement, en termes de votes, d'éléments comme ça. T'as vu ou t'es en train de voir des éléments assez intéressants au niveau de l'underground, du dark web et...
C'est ça. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui sont des fidèles, et un grand merci à vous de nous suivre. Je vous cache pas, vous verriez des fois notre Nicolas comme une petite puce faire des bonds en disant « il y a du monde !» Bon, ça nous fait tellement plaisir de le voir rebondir sur les murs. Encore, je dis n'importe quoi. Mais donc, voilà. Et pour ceux qui nous suivent fidèlement, souvenez-vous, il y a maintenant une dizaine de jours, je vous ai expliqué que je voyais des pirates avoir infiltré un cabinet d'avocats dans lequel on avait Madonna, on avait plein de grandes vedettes américaines. Et 4-5 jours plus tard, toute la presse mondiale en a parlé parce que Vanity, un grand magazine américain, en a parlé ensuite. Bon, c'est dommage que l'info n'a pas été reliée par ceux qui avaient vraiment la donnée, hein, parce qu'on voyait en temps réel. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, au moment que vous nous écoutez, je vais vous lire ce que je vois. Comme ça, du coup, vous aurez entendu ce que vous lirez dans 5 jours dans la presse. Le groupe Shadani Copy, le lapsus où vient de fusionner quatre groupes de ransomware en même temps. Non, le groupe Sodon Copy vient de diffuser et vient d'annoncer la menace très clairement à l'attention de Donald Trump. Alors, je vous explique. Ils sont très, très, très colères. Ils sont très, très, très colères après une société américaine qui s'est spécialisée dans le deal entre la société rançonnée et les rançonneurs. Et donc, cette société qui donc se fait de l'argent, bah oui, parce qu'elle va quand même prendre sa commission, hein. Vous savez, les bons samaritains, je n'y crois pas trop, hein. Moi qui passais ma vie à donner, pas que moi d'ailleurs, hein, mais on est plusieurs à avoir passé notre vie à travailler. Puis aussi à donner un petit peu notre temps pour la communauté bénévolement, gratuitement, sans avoir la moindre attention. Et je pense que je continuerai, comme Nicolas, comme beaucoup d'autres, à faire ça jusqu'à notre mort, parce que ça fait partie aussi de nos gènes. Bref, revenons à cette entreprise qui donc se fait du business hein, sur les ransomware, etc. Sauf qu'à première vue, pas gentil. Tu n'as pas bien fait correctement ton travail, monsieur l'entreprise, parce que donc Sodon & Cobie a décidé, donc devant mes petits yeux ébahis, ils viennent de dire. Alors, je vais vous traduire ça à ma façon, à la façon Zaptaz. Dites-vous qu'on va vous diffuser les propos clairs et nets que diffuse là devant mes yeux. J'ai montré à Nicolas hein, qui, voilà, il peut avérer que ce que je dis n'est pas un fantasme d'un livre de science-fiction, etc. Ou de la série Unité 42 pour qui je travaille, qui est une excellente série télé. Regardez-la sur Netflix. Je fais de la pub. Mais plus sérieusement, non, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben voilà, nous avions dealé avec une société 3,5 millions de dollars, tout se passait bien, tout fonctionnait bien, sauf que du jour au lendemain, nous n'avons plus une nouvelle. Cette société X, qui fait du deal avec nous et avec d'autres, parce que nous avons toujours eu de bonnes affaires d'affaires avec elle, ok, eh bien, a coupé les ponts. Du coup, nous annonçons que nous diffusons d'abord les messages que nous avons eus ensemble, donc j'ai montré à Nicolas, mais je vous les montrerai aussi, les messages qu'ils ont eus avec cette société. Et donc avec les pirates, où là, nous avons clairement, on veut pas payer 3 250 000, mais on veut bien payer 1 million. Donc je vous passe les mots doux, le joli vocabulaire utilisé par ces gens. Donc je vais être très clair avec vous, Sodon & Cobie a dit fuck, il a dit ouais, ok, tu veux jouer à ça, je te double le montant. Donc du coup, je claque la petite claque derrière la nuque, plus la diffusion des informations. Donc là, devant mes yeux, ils sont en train de commencer à diffuser sur 8 parties, ils ont déjà commencé à en diffuser 3, publiquement une, plus les messages, plus les captures. Donc là, je vois des factures, donc 10 millions, 28 millions, 12 millions, je vois des noms, je vois des prénoms, je vois des grosses sociétés, voilà. Et donc, là, c'est pour la première entreprise. Et ensuite, ils reviennent sur le cabinet d'avocat. Vous savez, ce cabinet d'avocat dont on vous a révélé l'information sur le podcast, hein, la Fresh Connection, donc vous retrouverez tout ça sur Sécurité FM. Eh bien là, ils disent, bah, écoutez, on a eu le même problème. Nous, on leur demandait 21 millions de dollars. Voilà, déjà, ça commence à faire beaucoup, les gars. Vous déconnez, hein, si tu nous écoutes. C'est comme un doute, hein, je vais être très clair avec vous. Et ils disent... Eh bien, sur les 21 millions qu'on a demandé, on n'a eu que 375 000 dollars. Donc, alors, c'est moi qui rajoute l'accent et les vannes, hein, mais c'est exactement ce que je lis. Hein. Donc, nous, pas contents, eh bien, on double la somme. Et puis, parce qu'on voulait 21 millions, on n'a eu que 375 000. Donc, ça veut dire que quelqu'un a quand même payé 375 000 sur les 21. Et donc, la même société... Oui, vous savez, le mec avec sa cape qui fait 0-0, qui est donc joué au con, je ne cesse de dire, arrêtez de jouer au con. Ces gens qui vous promettent monts et merveilles, c'est de bullshit. Très clairement, on a la preuve. Parce que là, du coup, les vilains, donc là, par contre, je reprends ma voix sérieuse, mais ces espèces d'enfoirés qui sont là, hein, ces pirates, sont en train de diffuser donc des données. Et là, ils expliquent qu'ils veulent maintenant 42 millions de dollars. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire. C'est la somme qu'a gagné un gars au loto, là, en France, hein. Je vous le dis tout de suite. Je me demande maintenant si je vais pas plutôt faire du ransomware que de tenter de jouer au loto, hein. Je dis ça comme ça, hein. Donc voilà. Donc il double le montant. Donc là, il l'annonce. Et là, ils viennent de dropper. Alors, j'en ai un, entre guillemets, publiquement, dans le dark web où tout le monde peut y accéder si on a le lien. Dump Part 1, un fichier de 6,37 mégas comprenant quoi? Alors, je vais être très clair avec vous, je suis à part 3 déjà, moi. Hein. J'ai pas encore analysé le part 2 et 3. Mais le part 1, je l'ai devant mes yeux. Donc, je le montre à Nico. Donc, comme ça, Nico, tu peux même dire ce que tu lis.
Il va falloir que tu fasses disparaître ton
fond d'écran. Ah bah oui, alors attendez. Bah, attendez, je vais le mettre comme ça. Tac. Oui, parce que j'ai mis une protection sur mon écran. Tac. Donc, je l'ai mis dans notre chat. Donc, voilà. Quel est le tout petit frichet tout en haut, tout en haut? Qu'est-ce qui est marqué? Ça. Est-ce que tu peux nous le traduire, ce mot, Nicolas? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, t'entends plus?
Excuse, non, drop de fichier.
Voilà, drop de fichier. Alors, pour ceux,
dépôt de fichier.
Pour ceux qui n'ont pas d'appointance sur le vocabulaire anglophone dédié à l'informatique, file drop, ça veut dire qu'ils ont déposé des fichiers. Je suis à part 3. Ils en diffusent pour le moment 1. Et dedans, ils annoncent que ce sont des informations liées à Donald Trump. Alors, pour la petite information, Donald Trump avait déjà été piraté plusieurs fois avant les élections présidentielles. Même une des données que j'avais expliquées d'ailleurs au Hackfest dans une conférence où les gars avaient son numéro de sécurité sociale, ses numéros de téléphone, ils l'avaient appelé, etc. Et c'est ce qui avait très certainement permis de pirater certaines données. Bah, c'est à partir de ces hôtels. Souvenez-vous que ces hôtels avaient été poneys à lui aussi. Hein. Très important de le rappeler. Et donc là, par contre, ils annoncent qu'ils ont des données qu'ils ont volées au cabinet d'avocats. Alors, les avocats de Donald Trump et de la Maison-Blanche ont dit que c'était pas vrai, qu'il ne faisait pas partie, qu'il n'avait jamais été avocat, enfin, qu'il n'avait jamais travaillé avec ce cabinet d'avocats qui venait de se faire pirater. Sauf que si ce Donny Kobe le dit, s'il diffuse des informations à jouer au con, eh ben voilà ce qui arrive. Alors, c'est Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Je vais être très clair avec vous, ça me fait ni chaud ni froid. Comme disait un ancien président français, ça ne touche pas sa couille droite avec la gauche. Hein, je vais être très clair avec vous. Par contre, quand ça va commencer et que ça le touche aujourd'hui, nous, toi, moi, nous, nos parents, nos amis, nos collègues, c'est beaucoup plus gênant. Alors, peut-être que ça fera réagir des gens, j'y crois pas 5 minutes, mais voilà ce qu'ils font. Ils s'en foutent qu'on soit petit ou géant, qu'on le veuille ou non, Donald Trump est le président des États-Unis, la première puissance économique du monde. S'ils le font avec lui, vous doutez bien qu'avec nous, ils auront aucune pitié. Donc voilà, je trouve intéressant qu'on lise ça en live, parce que je l'ai devant mes yeux, et puis au moment où on enregistre, ça vient d'être diffusé, que ces gens-là n'ont aucune pitié. C'est pour ça que j'ai pas voulu citer cette entreprise qui fait du deal parce que ça mérite pas d'être cité. C'est pour ça que je ne donne pas les lieux où ça se diffuse, que ça sert à rien de leur faire de la publicité. C'est juste pour vous montrer la réalité de la situation. Arrêtez-vous, entreprise, de mentir. Arrêtez de mentir à vos employés. Arrêtez de mentir aux autorités. Arrêtez de nous mentir à nous, consommateurs, utilisateurs. Je pense que si on était vraiment unis, et pas que je me tiens la main et je vous propose mon informatique gratuitement pendant 3 semaines parce que c'est le Covid-19. Donc, si on avait aussi cette partie humaine pour combattre ces gens-là, ça commencerait à devenir beaucoup plus intéressant. Mais bon, ça, après, il y a du marketing et puis il y a la réalité.
Les malveillants sont là pour faire du business, ils sont pas là pour vos beaux yeux, pour vous faire du mal, ils sont juste là pour faire de l'argent. C'est la triste réalité de ce que c'est. Il faut arrêter. Justement, de faire à croire qu'ils sont là pour autre chose. Dans le cas que tu mentionnes là pour Trump, je crois bien qu'il se balance énormément des dommages politiques que ça peut faire. Il s'en balance.
Alors, les pirates, ce qui est très marrant, c'est qu'ils disent le contenu qu'ils ont, ça correspond au linge sale de Donald Trump. Alors, ils s'en balancent, peut-être, oui et non. Parce que d'abord, je pense que la Maison-Blanche et les avocats de Donald Trump n'auraient pas communiqué s'ils s'en balançaient véritablement. Je pense que c'est aussi un moyen de dire, on n'a pas peur de vous, mais comme ils sont dans une communication de crise, comme on la connaît chez Trump, qui va un petit peu dans tous les sens. Sauf que, si dans les documents, je ne dis pas ça parce que je suis en train de spoiler, hein, mais peut-être que dans les documents, il y a des ententes judiciaires avec des rapports sexuels consentis avec des dames à qui on dit « Écoute, on va te donner tant d'argent, tu signes dans ce document et jamais tu nous sortiras un livre sur ce sujet dans 20 ans. » On pourrait éventuellement en reparler.
Ce sont pour devenir public prochainement, quand que d'autres gens avec peut-être un peu moins de scrupules vont diffuser uniquement et largement.
Je vais être très clair avec toi, je l'espère pas, hein, parce que bon, ça peut concerner tellement de choses. Je prends un exemple. Non, je donnerai rien de cet exemple en nom, etc. Mais quand je vois certains documents qui correspondent à l'adoption d'enfants, dans lequel le document judiciaire indique que l'enfant a peut-être une maladie, et que la personne qui a voulu adopter précise bien noir sur blanc à la main avec signature « Je souhaite avoir l'inspection de sanitaire de cet enfant avant adoption », C'est pas bon pour l'enfant, c'est pas bon pour les familles, c'est pas bon pour l'image de cette personne qui a voulu dire « moi j'adopte plein d'enfants parce que je vais sauver la paix dans le monde ». Voilà, ça devient un gros problème parce que je pense que malheureusement ces pirates informatiques sont, alors moi je les appelle, ne faites pas le malin avec les malins, le malin avec un M majuscule, le diable. Parce que là en fait ces gens-là sont en train de nous montrer le pire des visages de tout le monde. Parce que tout le monde a des choses à cacher sous le tapis. Moi, en premier, je sais pas quoi d'ailleurs. Bah, mon voisin, par exemple. Mais voilà. Non, c'est pour vous dire que ils sont en train de montrer les pires des choses. Et bah voilà, c'est moche et ça va impacter beaucoup, beaucoup de gens. Ça sera malheureusement terrible et intéressant à voir la suite que pourrait donner ce genre de choses. Mais bon. Voilà.
Ben, c'est ça, mais l'information, il se balance du contenu, mais ils n'utilisent pas le contenu pour le contenu, ils utilisent juste ce qu'ils savent parce que ce contenu a tellement de valeur pour les dites personnes qu'ils peuvent faire du chantage à la hauteur de 21 millions. Là. Donc, c'est quand même. Donc, l'information est quand même, elle a une valeur, mais ils ne veulent pas faire du capital sur qu'est-ce qu'il y a dans l'information vraiment, au-delà juste la vente. Puis...
C'est ça. Ben, en fait, c'est comme s'ils avaient un diamant brut, ils le vendent 42 millions. Et puis après, ben malheureusement, il y a des gens qui vont vouloir le tailler, ce diamant, et qui va prendre très vite peut-être des centaines de millions en valeur revente, en valeur réutilisation, etc. etc. Bref, il faut être très honnête, hein, peu importe le niveau qu'on est dans ce milieu-là, d'honnêteté, j'entends, hein, on est de la chair à canon, et puis ben, on ne peut que regarder et tenter d'espérer que ce qu'on informe, ce qu'on explique, eh bien, ça aidera des gens à ne pas se faire avoir.
Oui. Oui, mais tout ça est un peu triste parce que on suppose que les informations que tu mentionnes vont devenir effectivement publiques. Moi, elles le sont. Plein de gens et de médias publics.
Qui... Ouais, elles le sont, hein, parce que là, je prends l'exemple du fichier 1. J'ai entre guillemets la chance d'avoir le fichier 2 et 3 en main. Faut pas se leurrer, le fichier 1, je pense que dès lundi, tout le monde va en parler. Parce qu'on a beau dire que c'est « oh là là, c'est dans le dark web, ça fait peur bah, ». Le dark web, c'est juste quelque chose qui est chiffré, mais c'est un lien tié, quoi. Hein, donc, voilà.
Oui, malheureusement, tout ça est triste. Toute cette débandade-là va avoir des conséquences assez importantes. Puis j'imagine que dans une crise comme celle du COVID, en plus, il y a eu probablement beaucoup de petites manœuvres qui vont devenir publiques à travers ça. Fait que c'est pas c'est beau d'avoir le contre-pouvoir, ce que les médias doivent faire, mais dans ce cas-ci, c'est plus du contre-pouvoir, c'est carrément du salissage. Et c'est un peu différent comme.
Ce qui est compliqué, c'est que moi qui suis un journaliste en France, en Europe, je ne taperai jamais sur mes collègues parce qu'ils ont l'actualité, l'information qu'ils ont. C'est très compliqué pour certaines à sourcer. Donc, ils font appel à des experts et l'expert racontera ce qu'il veut. Le problème, c'est combien d'experts viennent parler dans les médias simplement parce qu'ils veulent informer, sans vouloir vendre quelque chose directement ou indirectement. Donc, je ne tape pas, moi, sur mes collègues journalistes, on n'arrête pas de dire « oui, ben non, ils font ce qu'ils peuvent ». Et c'est compliqué, c'est très compliqué, d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, ces pirates ont le marketing dans le sang aussi.
Oui, et puis de toute façon, les grandes machines, là, si on parle du cas de Trump, la machine médiatique autour de lui qui fait rouler lui-même, de toute façon, va servir à ses propres intérêts à travers ça. Donc, c'est même pas les journalistes sont pas en faute, c'est les effets collatéraux du monde dans lequel on est.
Je viens de voir que les pirates viennent de diffuser, au moment où je te parle, un autre document. Il reste exactement 39 jours, 15 heures, 46 minutes, 52, 51, 50, 49 pour le télécharger. En plus, les mecs mettent un compte à rebours, même dans le téléchargement. Eh, sans déconner. On se croirait à la fête foraine. Vous savez où il y a les manèges? Au premier qui tire sur le pompon, il a le gros lot.
Ben, c'est complètement fou, mais ils s'en foutent. Ils sont là pour faire de l'argent. Fait ils vont faire tout faire ce qu'ils veulent. Mais en plus, ils veulent montrer qu'ils sont les plus gros bras que les autres. Donc, en québécois, ils collent le bluff. Ils vont déclarer le bluff de ces personnes-là. Puis quand tu dis de ne pas prendre, de pas. Les prendre au sérieux, il faut les prendre au sérieux parce qu'eux, ils ne se gêneront pas de se prouver qu'ils ont raison.
Attention, alors je ne vous donnerai pas le nom du groupe parce que j'en suis 16. Il y a un groupe qui, cette semaine, a diffusé des documents qui, certes, avaient volé dans une entreprise, X, grosse entreprise, plus de plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, fichier piégé à l'intérieur. Je suis impatient de voir ces gens qui téléchargent et qui, en plus, eux-mêmes, vont se faire... voilà quoi.
Oui, ben c'est des vieilles stratégies. On le faisait ça même dans le temps de Napster ou le temps du BitTorrent, quand ça commençait à augmenter. Il y a plein de gens qui injectaient de la cochonnerie dans les
bah, Nicolas, les gens ont oublié, mais il y a plusieurs centaines d'années, il y a un mec qui s'appelait Ulysse. Il a pris un cheval, un truc en bois, et puis il a réussi à intégrer une énorme ville qui s'appelait la ville de Troie. Hein, voilà, ça date pas d'hier pourtant, les gars. Hein.
Non, c'est des vieilles stratégies, puis ils sont encore dans ce, bref. Donc, ça conclut l'épisode. On va essayer de le diffuser assez rapidement pour que le scoop demeure de notre côté. Là, j'ai Damien qui dit oui, fait que je vais faire un spécial sur celui-ci pour le passer en avant de toutes les autres. Sinon, moi, autre chose, rien à rajouter.
Non, alors là, l'idée du scoop, etc., c'était vraiment pour vous dire que voilà comment il fonctionne. C'est parce qu'on a l'occasion de pouvoir le faire. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi montrer qu'on a une vraie veille, une cyber-intelligence, et on essaye de faire des choses qui veulent informer, pas pour dire, parce que là, je pourrais clairement vous dire ce que je vois dans les yeux. Et c'est parce que je suis un grand monsieur, enfin, un grand monsieur, non, je suis 1m20. Quand je dis un grand monsieur, je suis un adulte. Hein, faut pas déconner non plus, hein, je suis quand même le plus grand des nains, hein, soyons très, très clairs. Mais non, je pourrais très bien vous dire ce que je vois là. Donc, comme je voulais dire, j'ai de la bouteille, je suis voilà, mais ça me donne la nausée. C'est tout ce que je dirais.
Oui. Puis c'est bon que cette information-là soit rendue, pas le contenu, mais qu'on sache que cette information-là est disponible justement pour sensibiliser puis aider. J'ose espérer nos législateurs et tous les gens à avancer puis à nous protéger comme citoyens puis à mettre des moyens en place. Mais en même temps, ces groupes-là ont de toute apparence se sentent invulnérables.
Si jamais Donald Trump, tu nous écoutes, abonne-toi.
C'est toujours bon. Sur ce, bonne semaine.
Bonne semaine à tout le monde.